L'interview santé par Jessica Falour.
Professeur Franck Bellivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de psychiatrie des hôpitaux universitaires Saint-Louis, Lariboisière et Fernand Vidal de la PHP. Et vous êtes notamment spécialiste des troubles bipolaires. Alors, les troubles bipolaires représentent la 6e cause de handicap dans le monde, selon l'OMS. Avant d'évoquer ce que sont précisément ces troubles et que vous nous parliez de leur prise en charge, est-ce que vous pouvez nous présenter les trois grands types de tempéraments cyclothymiques, hypertimique et dépressif?
Bien, donc effectivement, c'est des notions importantes quand on aborde la question de la vulnérabilité au trouble bipolaire, mais en réalité, ces tempéraments n'ont rien à voir avec le trouble bipolaire. Les tempéraments dépressifs, hypertimiques et cyclothymiques sont définis par des caractéristiques plutôt de personnalité, donc ce sont des caractéristiques stables de l'individu, en place depuis la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, et c'est plutôt une typologie de personnalité, de manière d'être à soi-même et au monde, qui définissent l'individu, mais ce sont des caractéristiques stables. Alors pour définir le tempérament dépressif, c'est plutôt des personnes qui sont aux prises avec un sentiment d'incomplétude, éventuellement un sentiment d'insécurité, de tendance à la tristesse, au pessimisme, avec une appréhension de l'avenir. Les tempéraments hypertimiques sont au contraire plutôt des tempéraments optimistes, entreprenants, tourné vers l'avenir et joyeux, avec une tendance à faire des blagues. Les tempéraments cyclothymiques, eux, quant à eux, sont plutôt des tempéraments qui associent les deux, mais de manière instable, c'est-à-dire ils peuvent emprunter des registres symptomatiques dépressifs ou hypertimiques sans que cela ne remplisse jamais les caractéristiques d'un épisode dépressif, évidemment. C'est bien pour cette raison que les tempéraments ne sont pas du tout superposables aux troubles de l'humeur cycliques tels que le trouble bipolaire.
Donc effectivement, ces tempéraments sont totalement dissociables, vous l'avez dit, et on le redit parce que beaucoup de gens font l'amalgame, hein, c'est totalement dissociable des troubles bipolaires, on peut parfaitement être cyclothymique ou dépressif sans être ou même devenir un jour bipolaire.
Exactement.
Alors justement, les troubles bipolaires, c'est quoi ?
Alors le trouble bipolaire est défini par des modifications durables et profondes de l'humeur, dans le sens d'une dépression ou dans le sens d'une exaltation de l'humeur. Autrement dit, c'est l'alternance d'épisodes dépressifs majeurs pendant plusieurs semaines associés à un handicap, donc une modification profonde du fonctionnement de l'individu, qui alterne avec des périodes d'exaltation de l'humeur, qui là encore contraste avec le fonctionnement habituel du sujet, appelé épisode maniaque, le tout séparé par des intervalles libres où les personnes fonctionnent normalement sans être ni aux prises avec des symptômes dépressifs ni avec des symptômes de la lignée maniaque.
Alors il y a deux types de troubles bipolaires, le type 1, le type 2, qu'est-ce qui les différencie ?
Bon, c'est très simple, le trouble bipolaire 1 est défini par l'alternance d'épisodes dépressifs majeurs et d'épisodes maniaques francs. Le trouble bipolaire de type 2 est simplement défini par une polarité maniaque d'intensité amoindrie.
Quelles sont les conséquences de la maladie au quotidien ?
Alors, ça c'est une question assez vaste parce que beaucoup de travaux ont été conduits pour essayer de comprendre quelles étaient les sources de handicap associées à cette pathologie. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est une pathologie du sujet jeune. Le début moyen se situe entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. C'est donc une période très critique dans le développement du sujet. C'est un critique du point de vue de son développement académique, social, affectif. Et donc la survenue d'un épisode thymique majeur, qu'il soit dépressif ou maniaque, où la personne va se trouver handicapée pendant plusieurs mois, en rupture par rapport à son fonctionnement antérieur, va avoir des conséquences très dévastatrices sur le développement de ces sujets, donc dans cette période critique de l'adulte jeune où il y a des enjeux très importants qui sont associés à un bon fonctionnement. en termes de développement principalement. Donc la survenue d'un épisode ne va pas être forcément très dévastateur.
Donc il peut passer totalement à la trappe ? Il peut passer un peu inaperçu.
Alors ça, c'est une autre question. C'est la question de la difficulté diagnostique,
oui,
ou du retard diagnostique.
Alors,
peut-être
oui.
On en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est juste pour indiquer que la survenue d'un premier épisode dans cette période, ça va avoir des conséquences. Mais le deuxième aspect qu'il faut bien comprendre de cette pathologie, c'est qu'elle a un caractère récurrent. Ça veut dire que les épisodes majeurs vont avoir tendance à se reproduire si le traitement régulateur de l'humeur n'est pas instauré précocement. Et c'est donc pas tant les épisodes eux-mêmes qui vont avoir des conséquences sur le développement de l'individu, mais plutôt le caractère récurrent. Si je vous prends l'exemple d'un jeune patient qui fait un premier épisode dépressif majeur à l'âge de 17 ans, bon, bah, il va redoubler sa première, il va s'en remettre, il passera son bac dans de bonnes conditions, il va intégrer la fac ou il va continuer ses études, etc. Mais si dans ces 3, 4, 5 années qui suivent ce premier épisode, il refait un ou deux épisodes, là, très clairement, les conséquences vont être extrêmement dévastatrices, puisque donc à chaque fois, il en prend pour plusieurs mois avant de pouvoir se remettre de son épisode. Donc, au sujet du handicap conféré par la pathologie, il ne faut pas se tromper d'objectif. Les épisodes dépressifs et maniaques, c'est important, il faut bien sûr les soigner. Mais ce qui va être absolument déterminant pour le pronostic de la maladie, c'est la mise en œuvre très précoce de ces stratégies préventives pour éviter la récurrence. Puisque finalement, ce qui va être très dévastateur, très désorganisateur de la vie des sujets, c'est le caractère récurrent de ces épisodes.
Alors le diagnostic, on en parlait, peut prendre en effet une dizaine d'années. Je crois que c'est 8 ans à peu près, hein, la moyenne. Après avoir consulté différents médecins, qu'est-ce qui explique que ce soit si long et si compliqué pour établir le bon diagnostic ?
Ces chiffres sont pièges. Ce sont des délais moyens. On connaît bien entendu un sous-groupe pas du tout négligeable, important, de patients qui connaissent un retard diagnostique avec toutes les conséquences du trouble bipolaire non traité, non correctement traité. Hein, on sait que le retard diagnostique est associé à des complications importantes. On sait que, par exemple, que les patients non traités se suicident plus que les patients traités. C'est probablement pendant cette période d'errance diagnostique et de traitement que les patients développent leur comorbidité addictive, comorbidité anxieuse, mais aussi comorbidité somatique. On sait que la santé physique des patients bipolaires est moins bonne que celle de la population générale. Donc il y a des conséquences nombreuses et importantes du trouble bipolaire non traité. Donc on sait que bien sûr il y a ce phénomène-là de retard diagnostique et donc de retard de mise en œuvre du traitement dont j'ai dit précédemment qu'il était extrêmement stratégique pour la préservation du développement des individus. Bien, mais ce que je voulais indiquer, c'est que ce sont des chiffres moyens. Il y a aussi un sous-groupe de patients qui est dépisté précocement, grâce simplement au fait qu'ils ont fait un épisode typique au début. Donc, pour répondre à votre question, la première raison de cette errance diagnostique, c'est que les premiers épisodes ne sont pas caractéristiques du trouble bipolaire. Et par exemple, rien ne ressemble plus à une dépression, un épisode dépressif majeur d'un patient bipolaire, d'un épisode dépressif majeur de quelqu'un qui n'a pas de trouble bipolaire. Donc la phénoménologie clinique n'est pas contributive. On n'a pas de test diagnostique pour faire le diagnostic, etc. Donc finalement, cette errance, elle est aussi simplement expliquée. Ce retard diagnostique est plus important chez les patients qui ont une polarité dépressive au début et qui vont faire leur épisode maniaque, qui, lui, va révéler le caractère bipolaire du trouble beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus facile de faire le diagnostic de trouble bipolaire et de proposer du lithium tout de suite quand le premier épisode, c'est un épisode maniaque typique.
Est-ce que les médecins de famille, par exemple, sont assez formés pour définir, pour aider au diagnostic ?
Alors, ce problème, cette question-là a peut-être été à l'œuvre il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, où il y avait certainement un manque de formation des médecins généralistes qui sont en première ligne avec les pathologies psychiatriques. Mmh. Ils voient beaucoup de patients, notamment pour les premiers épisodes. Ce défaut de formation des collègues généralistes a pu être à l'œuvre, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a d'énormes progrès qui ont été réalisés dans ce domaine. Les centres experts bipolaires de la Fondation Fondamentale, qui sont un peu des centres ressources auxquels on peut s'adresser pour faire des bilans diagnostiques, sont de plus en plus utilisés par les médecins généralistes. Donc c'est une... Je ne suis pas sûr que cette question... Enfin, il soit aujourd'hui en rapport avec un défaut de formation des collègues généralistes. Bon, après, il y a certainement toujours des progrès à réaliser pour mieux faire connaître ces pathologies, pour mieux faire connaître les signes annonciateurs. Mais il y a quand même des actions d'information de la population générale, de la communauté médicale, qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Donc j'ai l'impression que ça se démocratise un peu.
Alors vous parlez d'épisodes, justement. Concrètement, à quoi ressemblent ces épisodes ? Est-ce que vous pouvez nous parler d'un épisode, d'une crise typique qui pourrait passer plus ou moins inaperçu ?
Alors, un épisode dépressif majeur, un épisode maniaque ne peut pas passer inaperçu. C'est un phénomène très caricatural au cours duquel le sujet est en rupture complète avec son fonctionnement antérieur, très différent dans son fonctionnement, dans ses émotions, dans son comportement. Qui contraste beaucoup avec sa manière de fonctionner.
Donc ses proches s'en aperçoivent forcément.
Oui. Ouais. Il peut y avoir un certain degré d'ignorance du sujet lui-même, de la morbidité de son état. Bon, ça, c'est variable d'une personne à une autre. Mais en tout cas, l'épisode dépressif majeur se définit très simplement par une tétrade symptomatique, de la tristesse, un ralentissement psychomoteur, un ralentissement psychique, difficulté à se concentrer, sensation d'avoir une moins bonne mémoire, des difficultés attentionnelles, un ralentissement moteur avec une fatigue et une fatigabilité. Donc ça, c'est le deuxième grand registre de symptômes après la tristesse, bien sûr. Des signes de psychologie dépressive. Le patient déprimé a une vision du monde qui est très altérée, marquée par un pessimisme, par une anticipation de l'avenir, une mésestime de lui-même, une mésestime des autres, le sentiment que les autres ne peuvent lui apporter aucune aide. Et puis, il y a des symptômes somatiques de dépression, les troubles du sommeil, hein, typiquement le réveil précoce, et surtout la sensation d'un réveil non réparateur. Donc ça, c'est la phase d'état d'un épisode dépressif majeur. Et pour remplir les critères d'un épisode dépressif majeur, il faut que cette symptomatologie soit stable, et pendant au moins 2 semaines. Ça fait partie des critères. L'épisode maniaque, au contraire, c'est le miroir exact de cela. C'est-à-dire que la tristesse est remplacée par une gaieté pathologique. Le ralentissement psychomoteur est remplacé par une excitation psychique avec les idées qui vont à 100 à l'heure, la sensation d'une hyper-performance sur le plan mental.
Sexuel aussi ?
On va y venir. Ouais. Donc c'est une des états qui orientent le sujet vers l'ensemble des plaisirs. Les arts, le sexe, la bonne nourriture, etc. Pour classer les symptômes, que le ralentissement psychique et moteur est remplacé par une accélération psychique et motrice. Les patients sont, en plus de l'accélération psychique, il y a une accélération motrice avec une agitation, etc. Et puis les signes de psychologie maniaque avec un optimisme, une mégalomanie, une vision très positive de l'avenir, rien ne va lui résister, il est un type formidable, il est entouré de gens formidables, c'est des états qui sont extrêmement communicatifs, exaltants, d'ailleurs le sujet est très exalté, et puis des symptômes physiques, une augmentation de la libido, qui contraste avec la baisse de la libido de la dépression, des troubles du sommeil, mais qui sont très différents de ceux de la dépression, qui sont une réduction des besoins de sommeil, le patient ne dort plus, ou dort beaucoup moins, ou ne dort plus, mais sans fatigue. Et donc voilà, l'ensemble réalise le tableau maniaque.
Mmh. Avant d'arriver à cet épisode, est-ce qu'il y a des signes, des attitudes qui doivent mettre la puce à l'oreille ?
Alors, les groupes de psychoéducation auxquels participent les patients et leurs familles visent à les former, à repérer les signes annonciateurs, ce que nous appelons les prodromes. Donc, ils existent. On peut mettre en place une boîte à outils, mettre à disposition une boîte à outils pour les patients et pour les proches pour mieux repérer les signes annonciateurs. Les plus classiques, c'est des modifications des rythmes circadiens, avec le sommeil qui se modifie, des symptômes anxieux, des cognitions tristes, un moindre allant pour faire les choses habituelles. Mais en tout cas, c'est des choses assez subtiles qui nécessitent justement que le sujet et ses proches soient un peu formés au repérage, parce que ça peut passer pour des signes tout à fait aspécifiques. Alors qu'ils ont, en tout cas, on s'appuie beaucoup sur la subjectivité du patient à bien repérer ce qui peut être annonciateur chez lui.
Quelle est la prise en charge des patients concernés par le trouble bipolaire ?
Alors, il y a plusieurs volets. Rappelons que les médicaments sont indispensables, puisque nous avons aujourd'hui à notre disposition des médicaments qui ont démontré leur efficacité pour la prévention des récurrences. J'ai dit plutôt que la prévention des récurrences était très importante en termes de pronostic. Donc, le recours à ces médicaments préventifs des récurrences maniaques et dépressives est extrêmement important. Après, il faudra certainement tâtonner pour trouver le bon traitement efficace et pour trouver le traitement bien toléré. Mais ce volet médicamenteux est absolument indispensable. Donc il y a une première collaboration entre le patient et son médecin pour identifier le produit qui va permettre d'obtenir une bonne prévention et de la polarité maniaque et de la polarité dépressive. Le traitement du trouble bipolaire aujourd'hui repose sur d'autres outils, d'autres volets. Donc il y a le volet psychoéducatif qui, lui, est très important. Bien connaître sa pathologie, c'est être mieux armé pour le long cours, le long terme. Et donc nous passons beaucoup de temps à former les patients et leurs proches à une meilleure compréhension de la pathologie, de ce qui la caractérise et notamment ce qui peut concerner des symptômes résiduels, dépressifs, hyperréactivité émotionnelle, idéation suicidaire résiduelle, etc. Donc, bien comprendre la pathologie, c'est aussi être mieux armé sur la durée. Comme je l'ai dit plus tôt, le trouble bipolaire est fréquemment associé à d'autres phénoménologies morbides, troubles anxieux, addiction, mésestime de soi, hyperréactivité émotionnelle, anomalie ou dérèglement important des rythmes circadiens, et ça à géométrie variable d'un patient à un autre. Et donc, ce que nous réalisons dans les centres experts bipolaires de la Fondation Fondamentale, ce sont des bilans multidisciplinaires qui permettent de faire une cartographie, un état des lieux de chaque patient. Et de ce bilan, nous allons déduire quels sont les volets du programme thérapeutique. S'il a un dérèglement ou s'il est gêné par un dérèglement de ses rythmes circadiens, ayant tendance à se coucher de plus en plus tard, à être complètement dans le gaz le matin, ayant du mal à se mettre en route, eh bien nous allons l'aider à resynchroniser ses rythmes circadiens par des package de prise en charge spécifique. Quelqu'un qui est gêné par une hyper-réactivité émotionnelle, il ne fait plus d'épisodes maniaques, il ne fait plus d'épisodes dépressifs majeurs, mais il est très gêné dans sa vie de tous les jours parce qu'il a une réactivité au stress, une réactivité aux stimuli émotionnels, eh bien on va lui proposer des groupes de prise en charge spécifiques là-dessus. De la même manière, quelqu'un qui a une addiction comorbide, c'est quand même un patient sur deux, un alcoolisme, une consommation de tabac ou de cannabis, voire des drogues dures, eh bien, il va faire l'objet d'un programme de prise en charge spécifique pour prendre en charge, ce qui est souvent bien difficile, cette comorbidité addictive, etc. etc. Donc, le traitement, pour faire simple, parce que je pourrais en parler des heures, pour faire simple, le traitement du trouble bipolaire s'envisage à la carte, en fonction de l'état des lieux et de la situation de chaque patient.
Alors j'aimerais qu'on parle aussi des TOC, hein, les troubles obsessionnels compulsifs. Souvent on s'amuse avec ces TOC, où on se dit « ah mais t'as un TOC » ou « j'ai un TOC », etc. Et pourtant c'est très sérieux, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est souvent lié de manière comorbide avec un trouble bipolaire. Comment l'expliquez-vous ?
Alors considérons que le trouble obsessionnel compulsif n'a rien à voir avec le trouble bipolaire. Et on va rentrer après dans la possibilité d'une comorbidité entre le trouble bipolaire et les addictions. C'est un trouble à part entière qui, dans sa forme typique, n'a rien à voir avec le trouble bipolaire. C'est un trouble qui appartient à la catégorie des troubles anxieux et qui est pris en charge avec des techniques spécifiques, médicamenteuses et non médicamenteuses. En première approximation, on doit considérer qu'il n'y a pas de lien entre le trouble bipolaire et le trouble obsessionnel compulsif. Vous avez le droit de dire qu'on s'amuse avec les symptômes obsessionnels, etc.
On se trouve tous des TOC, en fait.
Alors, c'est ce que, dans notre jargon, à nous, nous appelons non pas des TOC, mais des SOC, des symptômes obsessionnels compulsifs, qui sont de degré variable, et un certain degré d'obsessionnalité est effectivement communément répandu chez tout le monde.
Chez vous
à
aussi.
À des degrés variables.
Vous avez un TOC ou un SOC ?
On pourra en parler après la fin de l'interview. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le trouble bipolaire était fréquemment associé à un trouble anxieux. Ça peut être un trouble panique, ça peut être une phobie sociale, ça peut être un TOC. Mais je dirais, il n'y a pas d'association préférentielle entre le TOC et le trouble bipolaire. On le rencontre comme pathologie associée au trouble bipolaire au même titre que les troubles anxieux. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un programme thérapeutique spécifique, évidemment.
Donc pas de lien avec, il ne faut pas que les gens qui ont un TOC se disent « ça y est, j'ai un signe, je suis bipolaire ». Non, ben, surtout pas.
Surtout pas, et c'est pour ça que je considérais les choses dans l'autre sens.
Ouais.
Le TOC, le trouble obsessionnel compulsif est une pathologie à part entière, indépendante du trouble bipolaire. Dans la plus grande majorité des cas, ça ne s'associe pas au trouble bipolaire. Ça peut s'associer à des variations dépressives de l'humeur, mais pas au trouble bipolaire. Et ensuite, il s'agira de considérer chez certains patients bipolaires l'existence de SOC, voire d'un TOC.
Alors revenons justement aux troubles bipolaires. Comment la maladie évolue-t-elle au fil du temps ? Est-ce que ça se soigne ou est-ce qu'il faut avoir des cachets à vie ?
Alors, on ne parle pas de traitement à vie. On met en avant plusieurs considérations qui nous aident aussi à définir des stratégies en accord avec le patient, puisque c'est quand même lui qui prend le traitement. Donc, on a l'habitude de dire une chose d'abord importante, c'est qu'il semblerait que les patients qui se soignent vont mieux que les patients qui ne se soignent pas. Bon, ça peut procéder du bon sens, mais ça va mieux en le disant, parce que il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas dans le trouble bipolaire, mais assez clairement, on peut, dans un pourcentage non négligeable de cas, obtenir une extinction totale de la maladie, sous réserve que le programme thérapeutique ait été bien suivi, précocement, et en tout cas pendant les premières années, de manière très sérieuse. Ce qui est très délétère en termes d'évolution, c'est quand la pathologie évolue pour son propre compte. Et ça, quand il y a des arrêts intempestifs de traitement, voire quand il n'y a pas de traitement, où là on sait que cette phénoménologie cyclique a tendance à s'aggraver et à s'accélérer. Et donc, ce que l'on a l'habitude de partager avec les patients, qui d'ailleurs l'ont repéré, certains d'entre eux l'ont repéré parce qu'ils ont 5, 10, 15 ans d'évolution, ils ont repéré qu'il y avait cette tendance à l'accélération. Et donc, nous considérons habituellement que le phénomène a tendance à s'embraser. Plus ça cycle, plus ça cycle. Donc la stratégie, c'est plutôt des stratégies intensives d'abord pour éteindre le phénomène, quitte à simplifier après le traitement. Donc la notion de traitement à vie, ça ne nous dit rien parce que ni ça n'encourage le patient à s'engager dans la prise en charge, puisqu'il peut partir, battu d'avance. Et en plus, ce n'est pas vrai qu'on maintient les traitements à vie chez tous les patients. Je vous signale d'ailleurs que ces patients qui, au bout de 2-3 ans, commencent à aller mieux, quand on leur dit « bon bah écoutez, est-ce que vous voulez qu'on arrête les traitements régulateurs de l'humeur ?» lesquels, quand on se lance dans des arrêts, il faut les arrêter très très progressivement, hein, sur un an ou deux, donc très très progressivement. Et bien souvent, ils nous disent « non, 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 je suis très bien comme ça, je veux garder mon régulateur de l'humeur ». Donc, parce qu'il y a aussi toujours, et ça on ne sait pas le prédire, le risque de rechute à l'arrêt des traitements régulateurs de l'humeur. Donc ça, c'est en fonction de l'évolution de chaque patient, quelque chose qui est partagé avec chaque patient sur les avantages et les inconvénients qu'il y a à poursuivre ou à arrêter.
Dans les inconvénients, justement, est-ce qu'il y a aussi un risque de dépendance au traitement médicamenteux ?
Aucune dépendance au traitement qu'on utilise. Les médicaments qu'on utilise en psychiatrie qui entraînent des états de dépendance, il n'y a qu'une seule catégorie, c'est les benzodiazépines. Je mets à part évidemment les morphiniques, mais qu'on utilise relativement peu. Mais il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs et il n'y a pas de dépendance, au sens toxicomaniaque du terme, des régulateurs de l'humeur. Donc la seule classe médicamenteuse dont on doit se méfier en psychiatrie, ce sont les benzodiazépines, Lexomil, Tranxène, Lisanxia, etc.
Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous indiquer la marche à suivre hein, si l'on pense que l'on est bipolaire ou si l'un de nos proches est concerné ? Qui consulter pour éviter de perdre 8 ans ou 10 ans à tourner autour du diagnostic ?
Alors, il y a premièrement beaucoup d'informations disponibles sur Internet, donc on peut croiser les informations de ce que l'on constate avec ce qui est disponible dans les livres sur Internet. Évidemment, consulter un médecin généraliste qui aura peut-être un avis qui permettra de corroborer ou pas la crainte que l'on a d'un tel trouble chez soi ou chez un proche. Il n'y a pas à hésiter à consulter un psychiatre, évidemment, qui, lui, sera le mieux placé pour répondre à cette question. Et enfin, il y a un groupe d'aide, il y a des associations de patients qui peuvent également aider au repérage de ces troubles cycliques de l'humeur lorsqu'ils ne sont pas pris en charge. Mais le conseil le plus simple, ce serait de consulter un médecin spécialiste.
Et les centres spécialisés dans les troubles bipolaires, ça arrive plus tard ?
Alors, si vous faites allusion au centre expert bipolaire de la Fondation Fondamentale, donc ça, c'est un réseau national de centres qui a développé une spécialisation dans cette pathologie-là. La finalité de ces centres, ce n'est pas d'être des centres de dépistage. Ce sont des centres de recours qui sont à la disposition des psychiatres traitants lorsqu'ils rencontrent une difficulté dans la prise en charge de leurs patients. Soit un problème de résistance au traitement, soit un problème de mauvaise tolérance du traitement, soit un problème de comorbidité, de pathologie associée qui font toute la difficulté de la prise en charge. À ce moment-là, on vient en appui du psychiatre traitant pour faire des bilans complémentaires qui vont permettre éventuellement de générer des hypothèses, des propositions qui vont aider à la prise en charge de ce patient précis, qui vont contribuer à aider le clinicien en charge de la prise en charge du patient.
Merci beaucoup, professeur Franck Bélivier. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie des hôpitaux universitaires Saint-Louis, La Riboisière, Fernand Vidal. Vous êtes chercheur également à l'INSERM. Vous travaillez beaucoup sur les troubles bipolaires en particulier, mais pas seulement.
Actuellement, ce qui nous occupe le plus, c'est une question bien mystérieuse, alors que nous utilisons le lithium depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Enfin, c'est un vieux médicament, mais on ne sait toujours pas comment il agit. Donc nous avons un portefeuille de projets qui vise à avancer dans la compréhension du mécanisme d'action de ce médicament absolument génial, qui a considérablement amélioré un nombre très important de patients, puisque je vous parlais tout à l'heure de l'extinction de ces cycles de l'humeur. Eh bien, au même titre que d'autres thymorégulateurs, le lithium est assez clairement le chef de file de ces traitements préventifs des récurrences maniaques et dépressives. Il a en plus, c'est le seul médicament qui a démontré une efficacité contre la mortalité suicidaire. Donc c'est vraiment un médicament très intéressant, mais on ne sait pas comment il agit. L'autre chose qui nous occupe beaucoup, c'est la variabilité de réponse. On observe un pourcentage important de patients qui répondent très bien au lithium, 30 à 40%, qui voient leur pathologie complètement éteinte par les sels de lithium. Et à l'opposé, on a 30 à 40% de patients qui, malgré 2 ans de lithium correctement pris, ne répondent pas, ne voient pas du tout leur pathologie modifiée. Et là encore, on ne comprend pas pourquoi certains patients répondent très bien au lithium et d'autres pas du tout. Et donc ce portefeuille de projet vise à élucider ces questions-là. Bon. Plus généralement, notre unité de recherche est engagée dans la compréhension de la variabilité de la réponse aux traitements psychotropes en général, dans le domaine des troubles de l'humeur, mais aussi dans le domaine des addictions, puisque les effets des produits addictifs sont aussi assez variables d'une personne à une autre. Et donc nous avons un autre portefeuille de projets qui tente d'avancer dans la compréhension de cette variabilité de l'effet des drogues chez les personnes abuseurs ou dépendantes de produits toxiques.
C'est très intéressant en tout cas. Ben, merci beaucoup. On en reparlera si vous voulez bien.
On vous accueillera.
Ou pas.
On vous fera bon accueil.
Merci à vous. À très bientôt.
Au revoir.
La santé surtout.com.